Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
J'aimerais vous inviter tout de suite à tourner avec moi dans Hébreux ce soir, l'Épître aux Hébreux. Quel mystère, nous ne savons pas qui a écrit l'Épître aux Hébreux. J'ai découvert qui est l'auteur de l'Épître aux Hébreux ce soir, j'aimerais vous l'annoncer. Une grande découverte qui va renverser tous les théologiens du monde entier, toutes les croyances, toutes les philosophies, les maisons de pensée théologique. J'ai vraiment découvert, en lisant l'Épître aux Hébreux, j'ai fait beaucoup de recherches, et j'ai vraiment découvert qui a écrit l'Épître aux Hébreux, et c'est le Seigneur Jésus qui l'a écrit. Hallelujah! Il a juste donné un homme et lui, il a juste transcrit, mais c'est vraiment Jésus qui a écrit cet Épître. On ne devrait pas se casser la tête à chercher qui a écrit l'Épître aux Hébreux. C'est Jésus lui-même, et l'auteur est encore vivant, il est encore présent, il est au milieu de nous ce soir, et c'est merveilleux. Vous pouvez vous asseoir à la maison, juste dans le calme de la présence de Dieu, et demander à l'auteur qu'il s'approche de vous et qu'il vous explique ce qu'il a écrit, parce que sans lui, il est impossible de comprendre les Écritures. Jésus lui-même a dit un jour dans les Évangiles, il a dit aux gens à qui il parlait autour de lui, il leur a dit littéralement cette phrase, il leur a dit « Vous ne comprenez donc... » Il parlait aux pharisiens qui écoutaient de façon intellectuelle ce qu'il leur disait, et Jésus leur a dit « Vous ne comprenez pas le langage que je parle. » Il existe un langage spirituel, et ça... C'est écrit dans une autre langue. Ce n'est pas écrit en français simplement ce soir. C'est écrit dans la langue du cœur. Il faut ouvrir son cœur pour regarder ça ce soir. Et ce qui est tellement important pour moi, c'est que le Seigneur Jésus lui-même puisse vous expliquer les Écritures ce soir, alors qu'on va le regarder ensemble. L'Épître aux Hébreux est probablement l'un des livres dans la parole de Dieu que je chéris le plus parce qu'il nous parle de Jésus. Si je pouvais l'exprimer, le présenter, si je pouvais vous vendre l'Épître aux Hébreux ce soir, si je pouvais vous donner le goût de le lire à la maison, c'est comme si la Bible était un dictionnaire et que l'Épître aux Jésus, l'Épître aux Hébreux, l'Épître à Jésus, amen. C'est comme si la Bible était un dictionnaire et que l'Épître aux Hébreux était la définition de qui est Jésus pour nous présentement, ce qu'il est en train de faire. Mais dans le fond, tous les livres de la Bible nous parlent vraiment de qui est Jésus de façon extraordinaire. Ce soir, j'aimerais essayer vraiment, on va essayer de vraiment aller vite. Et il est 8h et on va essayer d'avoir fini pour 8h30. Je vais faire une course un peu contre la montre ce soir parce que j'aimerais vraiment accorder un bon moment à la prière. Et j'aimerais juste, ce soir, il n'y a pas de diaporama sur PowerPoint et vous n'avez pas de notes parce que j'avais simplement à cœur de vous partager. Ce soir, je voulais pas vous voir prendre des notes. Je voulais vous voir me regarder. Je voulais pas vous voir regarder l'écran. Je voulais vous voir juste simplement ouvrir votre cœur, être décontracté et juste simplement recevoir de la parole de Dieu ce soir. Et le titre de ce partage est « Entrons dans son sanctuaire ». Entrons dans son sanctuaire. Si on songe un instant ce soir aux cieux, nous découvrons rapidement qu'ils sont le siège de la gloire toute-puissante qui émane de la gloire toute-puissante, qui émane de la personne de Dieu, et que ces cieux qui sont le siège de toute cette gloire incroyable, si puissante de la présence de Dieu, sont inaccessibles. Il est impossible à l'homme d'entrer dans le sanctuaire de la présence de Dieu. Ce sanctuaire est complètement inaccessible. Maintenant, imaginez-vous à quel point Dieu lui-même, qui est enveloppé de cette gloire lumineuse, de cette flamme, Dieu enveloppé comme d'une boule de feu. Sa personne, Ézéchiel est probablement l'un des hommes qui l'a le mieux vu et qui a peut-être décrit Christ de façon la plus facile à percevoir pour nous, de comprendre. Mais littéralement, il nous l'a décrit comme ayant une silhouette humaine, parce que nous sommes créés à son image, mais comme littéralement de feu de la tête aux pieds, avec cette gloire qui émane de lui. lui, comme le soleil brille, mais entouré comme d'une boule de gloire, de feu qui sort de lui. Pouvez-vous imaginer maintenant ce soir à quel point la personne de Dieu est complètement, littéralement insaisissable, intouchable, littéralement inaccessible. À travers les âges, à travers les siècles, depuis la chute d'Adam, de Caïn, Abel, jusqu'à aujourd'hui encore, alors qu'on se parle ce soir, les hommes font tout ce qu'ils peuvent pour essayer d'atteindre Dieu. De toutes sortes de façons. Ils ont essayé de tout faire. L'homme a tenté le tout pour le tout, même la tour de Babel. L'homme a même tenté littéralement, physiquement, de bâtir une tour. Et vous savez, vous connaissez bien l'histoire, ce que la Bible nous dit que le but, c'était de se rendre jusqu'à Dieu et d'atteindre Dieu. L'homme a toujours échoué, a toujours tenté, a tout fait pour se rendre jusqu'à Dieu. Mais nous voyons aujourd'hui alentour de nous, même à travers l'histoire, que l'homme a abdiqué. A lâché prise, a cessé de... Beaucoup d'hommes à travers l'humanité, ont des nations, des générations, des milliards de personnes ont abdiqué, ont cessé de chercher à se rendre jusqu'à Dieu. Ils se sont créés des plus petits dieux, des dieux plus accessibles. Vous voyez même à travers Israël, hein? Israël est sorti d'Égypte, et la Bible nous dit qu'ils se cachaient des téraphimes dans leur tente. Se cachaient des plus petits dieux. Dieu, le Dieu que Moïse rencontrait sur la montagne, cette montagne embrasée de feu, terrorisait les Juifs qui sortaient de l'Égypte. Et la Bible nous dit qu'ils se cachaient eux-mêmes des petits téraphimes, des petits dieux plus accessibles, plus humains, plus proches de eux, littéralement. Certains ont complètement tourné le dos à tout ce qui s'appelle spirituel, se tournent vers tout ce qui s'appelle matériel. Des hommes aujourd'hui vont littéralement adorer des trucs matériels. Moi, je travaille avec les jeunes et si vous voulez voir des adorateurs de matériel, venez voir des jeunes. Il y a à peu près un mois de ça, je faisais mon jogging sur la rue et je croyais pas que ça pouvait exister. J'ai vu ça, c'est un sacrilège pour le monde de l'automobile. J'ai vu une petite Sprint 1980 quelque chose avec un jeune dedans, avec un immense aileron à l'arrière, un aileron devant, sous le bumper. C'est 2-3 cylindres, ça. Et puis, avec une pomme qui fait du bruit en arrière, toutes les vitres teintées, les mags, tout le kit. Et puis, c'était une route assez chaotique. Tout ce que j'entendais, c'était... Puis le devant de l'auto qui frottait ses bosses à terre, ça, c'est un adorateur. Mais tellement d'argent, quand on dit aujourd'hui qu'un jeune peut acheter une automobile 5 000 $ de Volkswagen, puis il va acheter une Golf Volkswagen 5 000 $, puis il peut mettre jusqu'à 25 000 $ dessus pour monter, faire des changements à l'intérieur, c'est une forme d'idolâtrie, c'est une forme d'adoration, parce que les gens ont besoin des dieux plus accessibles. Dieu est inaccessible pour eux. Ils ont besoin d'un dieu plus accessible, ils vont se tourner vers le matérialisme. L'athéisme est né de ça. De complètement rejeter la pensée d'abdiquer. On peut pas se rendre jusqu'à Dieu. Il est inaccessible. Peut-être qu'on comprenne pas à quel point Dieu est glorieux dans les cieux, mais savent que Dieu est complètement inaccessible. Savez-vous que même l'islam enseigne que l'homme ne peut plus recevoir de révélations de Dieu. On peut élever des prières, mais l'homme ne peut plus recevoir des révélations de Dieu. L'humanité, regardez ça à travers toutes les... Il y a même une secte présentement au Japon, qui dit que dans ce... Quelqu'un me disait ça aujourd'hui, incroyable, Yvan Miseur qui est à l'arrière, que pour atteindre une forme de karma et devenir un maître, il faut courir 80 kilomètres par jour, hein, c'est ça, de jogging pendant plusieurs mois, plusieurs années, parce que Dieu est inaccessible, on va se bâtir, on va faire d'autres choses, mais Dieu, dans son amour et dans sa compassion, a accordé à Moïse et plus tard aussi à Salomon, voyant le cœur de l'homme de s'approcher de Dieu, mais ce Dieu est inaccessible dans les cieux. Dieu a dit, vous allez me bâtir un sanctuaire sur terre, une maison parmi vous, littéralement, physiquement. Il y avait la tente d'assignation, et ceux qui ne connaissent pas, il y a beaucoup de nouveaux chrétiens à l'église Belleville, ça prend un instant quand même de vous parler de ça. Ce soir, il y avait littéralement une grande tente d'assignation, et c'était comme la tente de la... C'est appelé ce qu'on appelle le tabernacle, la tente de la rencontre. Et puis c'était là, ça c'était comme la maison de Dieu parmi les maisons des hommes. Dieu dans le ciel qui dit, j'ai compassion de vous, je veux me rapprocher de vous, je vais venir avoir une maison parmi vous. Plus tard, le temple de Salomon, jusqu'au temps de Jésus, jusqu'en 70 après Jésus-Christ, il y a eu ce temple-là où littéralement, c'était un peu dans la tête des Juifs, c'était littéralement la maison de Dieu parmi les hommes. Mais pourtant, Il y avait le parvis extérieur, la cour extérieure, là où les gens pouvaient communier, si on pourrait le comparer au lobby peut-être de l'église de ville, les gens se rencontraient comme ça ensemble. Puis il y avait le lieu saint, là où on faisait des sacrifices, là où il y avait de la louange qui se faisait, là où il y avait aussi des prières qui se faisaient, il y avait le lieu saint. Mais il y avait aussi ce qu'on appelait le lieu très saint, qui était communément appelé le saint des saints, qui signifiait, ça c'est la pièce de Dieu. Le saint des saints, le trois fois saint, habite l'autre bord de cette pièce. Il y avait un rideau, mais un immense rideau. Et ceux qui étudient la théologie pourraient tellement mieux vous l'expliquer que moi. Il y avait un immense rideau très épais. Il y a même du métal de tressé là-dedans. Il y avait des dessins à l'extérieur brodés. Mais comme une voûte impénétrable, comme littéralement, si je pourrais m'exprimer ainsi, comme un mur bétonné qui séparait les Juifs de goûter, d'entrer, de connecter à la présence de Dieu. Non parce que Dieu ne voulait pas être souillé par les imperfections des hommes, mais parce que Dieu voulait protéger les hommes de sa glorieuse présence. Parce que sa présence était tellement glorieuse que le simple contact d'un homme imparfait à la gloire et glorieuse perfection de Dieu aurait pulvérisé l'homme et l'aurait tué instantanément. Une fois seulement par année, pas n'importe qui, ni le roi, ni les prophètes, ni aucun lévite, ni aucun sacrificateur, ni aucune bonne personne, seulement le grand sacrificateur pouvait rentrer seulement une fois par année dans le lieu très saint. Et au pan de sa robe, il y avait de toutes petites clochettes, peut-être vous avez déjà entendu ça, au pan de sa robe, il y avait de toutes petites clochettes, il y avait une corde attachée à sa cheville, et les petites clochettes étaient pour assurer les lévites et les sacrificateurs à l'extérieur du Saint des Saints que le grand sacrificateur est toujours vivant. Parce que le grand sacrificateur devait, avant d'entrer, offrir des sacrifices pour ses péchés, un sacrifice pour son péché, pour ses erreurs. Et après, il devait sacrifier une fois par année l'agneau, une fois par année, non pour donner accès à la présence de Dieu, mais pour protéger le peuple de la colère de Dieu à cause et du jugement et de la justice de Dieu à cause de leurs erreurs, de leurs imperfections. Et une fois par année, il entrait dans le sanctuaire, le saint des saints, la glorieuse présence de Dieu. Il entrait dans le sanctuaire. Il devait venir présenter, il y avait, ce que vous avez déjà entendu parler, l'Arche de l'Alliance, qui symbolisait comme le trône de Dieu. Il devait venir présenter le sang de l'agneau sur le trône. Et de l'autre côté, souvenez-vous, de l'autre côté de cet immense rideau qu'on ouvrait une seule fois par année, bétonné, tellement bien fermé, que la Bible nous dit que la lumière ne pénétrait pas. Là. L'auteur aux Hébreux nous présente le Saint des Saints comme un endroit de noirceur, un endroit qui faisait très noir, même la lumière ne pénétrait pas là. Rien. Dieu est sur terre parmi les hommes, il s'est fait une maison inaccessible. Son sanctuaire est inaccessible. Et les hommes écoutaient. Écoutez le grand sacrificateur, puis ça arrivait parfois, puis c'est arrivé parfois que le grand sacrificateur, une fois par année, est entré dans le Saint des Saints, mais son cœur, s'il y avait quelque chose de caché dans son cœur, et alors qu'il entendait les petites clochettes, ding, 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 ding. Hey, les gars, je pense que. T'entends-tu les cloches? J'entends pas les cloches. Il n'y a pas de cloche. Tu sais, ça accorde. Puis il tirait le cadavre. Puis il mettait un autre grand sacrificateur. OK, vas-y. Non, non, non. Vas-y, toi. Non, non, ouais, vas-y. Non, vas-y, c'est à ton tour. C'est toi le prochain sur la liste. Puis il fallait qu'il soit pur. Parce que Dieu était littéralement inaccessible. Pourquoi est-ce que Dieu, dans son rapprochement, a mis une maison, sa maison, s'est fait une maison sur terre, mais dans laquelle il ne peut pas communier dans la gloire de sa présence avec l'homme? Il ne peut pas faire expérimenter à l'homme la gloire de sa présence dans ce lieu très saint. Alors, à quoi est-ce que ça sert d'avoir... Moi, j'aime ça être une personne logique. Seigneur, à quoi ça sert d'avoir placé un temple sur terre comme ça? Et l'auteur aux Hébreux nous le décrit, il nous répond à cette question-là, et il nous dit, pourquoi? Quelle était la raison qu'il y avait un lieu saint, une gloire de Dieu comme ça, parmi les hommes, mais inaccessible? Regardez avec moi Hébreux, le 9e chapitre. Le premier verset. La première alliance avait elle aussi ses ordonnances relatives au culte et elle avait son sanctuaire terrestre. En effet, verset 2, un tabernacle avait été installé dans la première partie appelée le lieu saint, se trouvait le chandelier. Et là, il va décrire le temple. Allez au verset 8. Il va nous dire, le Saint-Esprit montrait par là que l'accès du Saint des Saints n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Et voici maintenant la raison, verset 9. C'est une figure pour le temps présent. Regardez-moi ici un instant. L'auteur aux Hébreux est en train de nous dire que le Saint-Esprit a placé un temple sur la terre avec le lieu très saint dedans, dans un seul but. Nous montrer que le sanctuaire de la présence de Dieu est inaccessible, impossible à l'homme d'entrer en contact avec le Dieu trois fois saint, complètement impossible. Mais la Bible nous dit aussi que le temple sur terre, ce temple qui avait une prestance incroyable, ce temple qui était visible et prestigieux en Israël, à Jérusalem, qui était visible même de loin, je pourrais le traduire ce soir, au stade olympique, vous allez, vous grimpez le Mont Saint-Hilaire, vous voyez le stade olympique, vous arrivez en avion sur Montréal, par le Blue, vous allez voir le stade olympique, c'est probablement l'un des bâtiments, la place de Marie, c'est prestigieux, c'est gros, c'est parmi les plus gros bâtiments à Montréal. Le temple en Israël, c'était le bâtiment en Israël, à Jérusalem. Et la Bible nous dit que Dieu a placé ce temple sur terre dans un but, nous montrer, nous rappeler, nous enseigner qu'il existe un autre sanctuaire, un sanctuaire céleste de la présence de Dieu, mais qui est inaccessible. J'aimerais vous montrer ce soir à quel point, parfois, nous, en tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu, on veut avoir une communion avec Dieu. On veut prier. On veut s'approcher de Dieu. On veut vivre purement pour Dieu. On veut faire avancer les choses. On veut conquérir pour Dieu. On veut bâtir l'Église de Dieu. On veut vivre pour Dieu. On veut vivre des prières pour Dieu. On veut devenir de meilleures personnes. Mais il y a aussi une autre réalité dans votre vie chrétienne ce soir, dans la mienne, que j'aimerais par le Saint-Esprit que vous puissiez saisir ce soir. Il existe vraiment un lieu saint, un sanctuaire invisible de la présence de Dieu. On va voir dans un instant, je donne le scoop tout de suite. Maintenant, ce sanctuaire est accessible. Regardez avec moi Hébreux, le 8e chapitre, le 1er verset. Or, voici, dans Hébreux 8, l'auteur aux Hébreux va nous dire quel est le but de toute l'Épître. Voici pourquoi j'ai écrit ce livre-là. Voici pourquoi Dieu m'a donné cette Épître-là. 8.1. Or, voici le point capital de ce que nous disons. Nous avons un souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Regardez bien qu'est-ce qu'il dit. Il ne parle pas du temple à Jérusalem. Il est ministre du sanctuaire. Oh, et j'aime le prochain mot. Et du véritable tabernacle dressé par le Seigneur et non par un homme. Regardez le chapitre 9, verset 1. La première alliance avait, elle aussi, ses ordonnances relatives au culte de son sanctuaire terrestre. Donc, on sait par déduction qu'il y a aussi un sanctuaire céleste. Et on sait par le verset 8 et 9 que le temple à Jérusalem a été placé là comme juste, tout le temple au complet, c'était juste une illustration. Hein, parce que là, des fois, il va prêcher dimanche matin une vérité biblique, puis il va vous présenter une illustration ou un témoignage dans le but de vous aider à saisir la vérité biblique qui a été partagée. Le Saint-Esprit veut vous dire qu'il existe un sanctuaire céleste de la présence de Dieu, et afin qu'on comprenne, il l'a illustré par un temple sur la terre. Le temple, c'était juste une illustration. Une illustration est toujours moins puissante que la vérité biblique. Le temple, vous allez voir, dans un instant, la Bible nous dit, le temple à Jérusalem était moins vrai que le vrai sanctuaire. Verset 9-11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, on aurait pu dire littéralement le sanctuaire, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Regardez bien. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Regardez maintenant chapitre 9, toujours le verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main des hommes. Imitation du véritable, mais dans le ciel même, afin de se présenter maintenant pour nous devant la face de Dieu. C'est vrai, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que le temple d'or et avec les colonnes de cuivre incroyables à Jérusalem, ce temple si glorieux, était une illustration. Et le temple, le sanctuaire de la présence de Dieu que Dieu a pour vous ce soir, ce temple-là était juste une imitation du véritable. Je pouvais oser vous dire ceci ce soir, ce lieu est moins vrai pour Dieu que le sanctuaire de sa présence. Le sanctuaire de la présence de Dieu, où Dieu veut nous inviter à entrer ce soir, à ses yeux à lui, est plus vrai, est plus grand, plus parfait que le lieu où on se tient ici ce soir. Que ce soit dans le sanctuaire de l'Église, que ce soit ici, que ce soit dans n'importe quelle Église, que ce soit la plus belle Église, la plus prestigieuse sur la terre, parce que la Bible nous dit que toutes choses vont passer, même la terre va passer. Ce qui demeure, c'est la gloire de la présence de Dieu et son sanctuaire. J'aimerais que vous puissiez saisir ce soir à quel point, aux yeux de Dieu, le sanctuaire de sa présence est plus véritable pour lui que même ce que vous voyez physiquement ce soir. Le lieu où Dieu veut vous inviter ce soir, pour lui, c'est ce que la Bible nous dit, est plus véritable. Et ce que vous voyez ce soir, l'Église Nouvelle Vie, quand vous entrez dans une réunion à l'Église Nouvelle Vie, pour Dieu, c'est une illustration terrestre et visible du vrai sanctuaire dans lequel il veut faire rentrer votre cœur. Le sanctuaire de sa présence. Et rapidement, ce soir, j'aimerais vous dire, il y a une invitation dans ce sanctuaire et il y a une compassion dans ce sanctuaire. Notez bien ceci. Il y a une invitation dans ce sanctuaire. Maintenant, on va faire un calcul ensemble. Essayez de calculer. Pendant des milliers d'années, de Moïse jusqu'à 70 après Jésus-Christ, alors que le temple a été détruit, de Moïse avec la tente d'assignation à Salomon, son temple, au temple que Hérode a fait rebâtir, jusqu'à la destruction en 70 après Jésus-Christ. Maintenant, notez bien ceci. Des milliers d'années, des millions de Juifs, pendant des milliers d'années, ont offert des millions de sacrifices d'animaux, des millions de tonnes de sang ont été versées, des milliards peut-être de prières ont été levées dans le lieu saint, devant le lieu... Imaginez-vous, tout se faisait devant le lieu saint, devant ce rideau de la gloire, Dieu est de l'autre côté, et tout se faisait dans le lieu saint. Des milliards de prières ont été élevées, de louanges, de bonnes œuvres, des gens qui ont essayé de faire des bonnes œuvres, essayer d'être des bonnes personnes. Les pharisiens sont nés durant l'exil. Les pharisiens, c'est la naissance de gens durant l'exil qui ont dit, Dieu nous demandait ça dans la loi, on va faire ça, on va en faire plus qu'est-ce que Dieu nous demande pour être certain de respecter, pour être certain de plaire à Dieu. On va faire tout ce qu'on peut. Maintenant, comptez tout ça. Tous ces sacrifices, ce sang, ces louanges, ces prières, ces bonnes œuvres, le parfum qui était brûlé, qui était monté, le sang qui était versé, tout ce que ces gens ont fait, tous ensemble, de faire la comptabilisation de tout ce que ces hommes-là ont fait ensemble pour essayer de plaire à Dieu, n'a jamais fait bouger d'un iota le rideau qui séparait Dieu des hommes. Jamais, 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 jamais. Rien n'a bougé. Pourquoi est-ce que Dieu a permis que ce soit comme ça? L'auteur aux Hébreux nous dit, littéralement, regardez avec moi le texte qu'on vient de lire. Le Saint-Esprit montrait par là que l'accès du Saint-Esprit n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps présent. Puis là, il va nous dire pourquoi il y avait ce temple-là. Signifiant que les dons et sacrifices présentés ne peuvent mener à la perfection. Tout ce que Dieu voulait nous montrer, parce que la Bible a dit que c'était une illustration pour nous, tout ce que Dieu voulait vous montrer ce soir, à travers toute cette cumulation de milliards de bonnes œuvres et d'efforts de toute une nation entière, où ce qu'ils se sont tous mis ensemble, peut-être, et ont dit, Seigneur, regarde, qu'est-ce qu'on a tout fait ensemble? Peut-être serait-ce assez pour qu'il y ait un homme qui puisse rentrer en communion avec toi. L'auteur aux Hébreux nous dit, tout ça a été là pendant des milliers d'années pour nous montrer une chose complètement impossible. Il fallait nous montrer à quel point c'est impossible à l'homme d'entrer en communion avec Dieu afin que nous soyons extrêmement impressionnés de lire le verset suivant. Tournez avec moi dans l'Évangile de Marc. Soit c'est une étude biblique, on regarde plusieurs textes ensemble. L'Évangile de Marc, le 15e chapitre. Marc, le 15e chapitre et le verset 37. Quand vous l'avez trouvé, dites « Amen ». OK, vous l'avez trouvé. Jésus va expirer son dernier moment sur la croix. Marc, j'ai-tu dit Jean? J'ai Marc, hein, c'est correct. OK, super. Je savais que j'avais dit Marc, j'ai juste savoir si c'était correct. Mais Jésus jeta un grand cri, puis il expira. Le voile du temple se déchira en deux, de haut en bas. Et Jean va rajouter par le milieu. Voyez-vous la comparaison? Tout ce que les hommes ont toujours tenté tous ensemble n'a jamais fait bouger d'un iota le rideau. Jésus à la croix, dans son sacrifice, en un instant à la croix, en expirant, puis il a dit en mourant, tout est accompli. Il a poussé un grand cri, il a expiré. Et dans le temple, devant les sacrificateurs, devant les Lévites, imaginez-vous, c'est cet immense temple, cet immense rideau. La Bible nous dit qu'ils l'ont vu déchiré jusqu'en bas. Dieu voulait nous montrer ainsi. Le temple, c'est juste une illustration. Dieu voulait nous montrer ainsi que tout ce qu'on peut faire, vous pouvez tenter tout ce que vous voulez pendant toute votre vie, y mettre tout ce que vous pouvez. Vous n'arriverez jamais à mériter une relation et une communion avec Dieu. Jamais impossible. Complètement inaccessible. Mais en un seul instant à la croix, Jésus nous a rendu la présence glorieuse de Dieu accessible. Tournez, revenez avec moi dans Hébreux. Plusieurs nouveaux chrétiens ici à l'Église. C'est tellement important que vous puissiez comprendre ceci. Hébreux, le 10e chapitre, le verset 9. J'entends des pages, on va attendre un petit peu. Hébreux 19. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile. Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tout ce que l'homme a toujours tenté pour entrer en communion. Savez-vous qu'il y a des êtres humains présentement qui font vraiment tout pour avoir une communion avec Dieu? Il y a des gens qui parlent d'autres langues, dans d'autres croyances, qui font toutes sortes de choses. Il y a des hommes et des femmes alentour de nous au Québec qui font tout pour avoir une communion avec Dieu. Ils n'y arriveront jamais. La Bible dit, puis j'aimerais vous dire ce soir, vous pouvez prier autant que vous voulez, ça ne suffira pas pour entrer dans la présence de Dieu. Vous pouvez chanter autant que vous voulez, ça ne suffira pas pour que vous puissiez entrer en communion avec Dieu. Vous pouvez essayer de mettre la Bible en pratique et d'être le meilleur chrétien autant que vous voulez, ça ne suffira pas pour que vous puissiez connaître Dieu encore plus. Vous pouvez essayer de régler tous les problèmes dans votre vie privée et de dire, Pasteur Christian, quand je vais avoir la tête reposée, tous mes problèmes vont être réglés, ça va être donc plus facile d'entrer dans le sanctuaire de Dieu. Vous n'y arriverez jamais. Vous ne pourrez jamais rien faire par vous-même pour entrer dans sa présence. Même la prière ne suffit pas. Les Juifs ont prié, puis ça ne suffisait pas. Il y a une seule chose qui va vous faire découvrir la glorieuse présence de Christ, et c'est la foi. Parce que la Bible nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Puis qu'est-ce qu'il va dire après? Celui qui s'approche de Dieu. La foi est extrêmement importante pour s'approcher de Dieu. Souvent, on parle de croire en Dieu pour nos besoins, ce qu'on vit, ce qu'on traverse, que Dieu va être là, je crois en Dieu, Dieu va s'approcher, Dieu va m'aider. Et c'est bien d'avoir cette foi-là pour notre vie au quotidien. Mais ce que l'auteur de Hébreux nous dit, c'est qu'on doit surtout avoir la foi pour s'approcher de Dieu. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est dans le sanctuaire de sa présence que Dieu répond aux prières. C'est quand vous vous trouvez devant le trône de Dieu que vous priez, c'est là que Dieu répond aux prières. C'est là que les cœurs sont guéris. C'est là que les gens sont délivrés. C'est là que les gens sont transformés. C'est là que les gens naissent de nouveau. C'est à travers la présence de Dieu, la nouvelle naissance, naître de l'Esprit. C'est dans la glorieuse présence de Christ. Laissez-moi vous dire ce soir, il existe vraiment un sanctuaire céleste de la présence de Dieu et vous pouvez y entrer. Vous êtes invité à y entrer d'une seule façon. Par la foi. C'est quoi la foi? C'est un enfant qui ne pose pas de questions. Seigneur, j'ai libre accès à ton sanctuaire. Alors, c'est simple. Je peux m'asseoir sur mon canapé, mon sofa à la maison, marcher à la maison, prier. Mais ici, là, et ici, je me dis, je ne suis plus dans ma maison. Je ne suis plus dans mon salon ou dans ma chambre de prière. Attends une minute, là. J'entre dans le sanctuaire de la présence de Dieu. Dans le sanctuaire, je vais chanter, je vais louer, je vais m'approcher de Dieu, je vais présenter des requêtes. Mais les prières qui étaient présentées dans le lieu saint rebondissaient sur le voile des œuvres d'essayer de faire quoi que ce soit, mais de dire, incroyable, j'ai rien à faire, rien, à rien. Tu dis plus québécois, à rien, pantoute. Entre dans la présence de Dieu en disant, à cause de Jésus. Cause de Jésus, je peux entrer et je peux simplement me mettre à parler avec Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Je crois que tu existes, je crois que tu es là devant moi et je crois que je débute un entretien extraordinaire avec toi. Pouvez-vous dire amen ce soir? Une invitation dans le sanctuaire, je vais inviter les musiciens à s'approcher. Je termine avec cette pensée ce soir. Et il y a une invitation dans le sanctuaire, mais il y a aussi une compassion dans le sanctuaire. J'aimerais vous dire ce soir, le Seigneur Jésus compatit avec ce que vous vivez comme personne ne peut le faire. Aucun être ne peut compatir et comprendre et compatir avec ce que vous vivez comme le Seigneur Jésus. Comprends-tu ce que vous vivez? La Bible nous dit, comment est-ce que je pourrais vous dire que Dieu compatit ce soir? Par deux choses. Il compatit pour vous par son intercession. Peut-être vous avez déjà entendu parler que Christ intercède pour nous. C'est extraordinaire. Mais moi, ça ne me touche pas si je ne sais pas ce qu'il prie. Si je vous dis que Christ intercède pour vous, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il est en train de dire au Père sur moi? Puis on ne se posera pas de question comment est-ce qu'il fait pour prier pour tout le monde en même temps. C'est Christ. Alors, il est capable de prier personnellement pour chacun d'entre nous. C'est un Dieu qui est personnel. Ce n'est pas un Dieu généraliste seulement. C'est un Dieu qui est personnel. Comment est-ce que tu peux comprendre? Comment est-ce que tu peux imaginer? Qu'est-ce que Christ est en train de dire au Père de toi? Savez-vous que la Bible nous dit qu'est-ce qu'il est en train de prier pour vous? La Bible a la réponse à toutes les questions. C'est extraordinaire. Regardez avec moi Hébreux, le 7e chapitre. Je vais vous dire qu'est-ce que Jésus est en train de prier pour vous. Hébreux, le 7e chapitre. Le verset 22, Hébreux 7, 22. Jésus est devenu par cela même le garant d'une alliance meilleure. De plus, ses sacrificateurs ont existé en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être impermanents. Mais lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède le sacerdoce non transmissible. Maintenant, vous allez découvrir qu'est-ce qu'il dit. C'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Savez-vous qu'est-ce que Jésus est en train de prier maintenant auprès de Dieu? Il est en train de prier Dieu de vous réouvrir une fois de plus l'accès à son sanctuaire. Peut-être avez-vous goûté à sa présence, peut-être avez-vous communié avec Dieu, et peut-être avez-vous fait une erreur aujourd'hui. Le sanctuaire s'est refermé. Impossible. Parce que Dieu est trois fois saint. Vous ne pouvez pas entrer dans la présence de Dieu. Peut-être avez-vous eu une mauvaise pensée aujourd'hui. Vous ne pouvez plus entrer dans le sanctuaire de Dieu. Dans l'Ancien Testament, si tu faisais un péché, il fallait présenter un sacrifice. Puis là, tu allais vivre. Puis là, tu refaisais un autre péché, il fallait te retourner présenter un autre sacrifice. Mais la Bible nous dit que Jésus est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Ça veut dire quoi, ça, une fois pour toutes? Ça veut dire une fois pour toutes mes fois que je ferais des erreurs. Jésus est entré une fois pour toutes vos erreurs. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes quoi? Une fois pour toutes les fois que tu faillirais. Une fois pour toutes les fois que tu fléchirais les genoux et que tu ferais une erreur. Jésus est entré une fois pour toutes et il intercède présentement pour toi. C'est vrai ce qu'il est en train de dire au Père? Je la laisse. Je le laisse entrer dans notre présence. Père, elle peut venir. L'accusateur est là, mais l'avocat est là. Père, elle peut revenir. L'accusateur, elle est retombée. Elle a fait ça, il a fait ça, il a manqué. Parce que le péché, ce n'est pas toujours de faire le mal. Le péché est parfois de ne pas faire le bien qu'on sait qu'on devrait faire. Puis là, l'accusateur, oh, mais elle a pas fait... Oh, mais le Saint-Esprit lui a dit de faire ça aujourd'hui. Il n'a pas obéi vraiment à cet esprit. Il faut lui fermer l'accès au sanctuaire de Dieu parce que Satan sait que si vous avez accès au sanctuaire de Dieu, vous pouvez demander quoi que ce soit, puis il vous allez être répondu. Fait qu'il faut pas que vous rentrez là. Mais Jésus se tient là. Il intercède pour vous. Il dit, Père, je sais qu'elle se sent sec, loin de toi, qu'elle se sent hors de ta présence, qu'elle se sent pas, qu'elle n'a même pas le goût dans son âme de s'approcher de toi. Mais Père, je suis venu ici une seule fois pour toutes ces fois-là. Toutes les fois qu'il faillirait, je me tiens ici. Et il est entré une fois pour toutes. Il vous aime, il vous ouvre le sanctuaire de la présence de Dieu ce soir, une fois pour toutes les fois. Et en terminant, j'aimerais vous dire, il y a une compassion dans le sanctuaire de Dieu à cause de sa compréhension. J'ai été vraiment touché dans ma vie personnelle, il y a deux semaines, par cette réalité, en étudiant les Écritures, en découvrant que seul, notez bien ceci, seul le sacrifice de la vie de Jésus à la croix a payé pour mes péchés. Et en croyant vraiment ceci, j'ai découvert tout ce que Jésus a subi avant la croix n'est pas pour le pardon de mes péchés. C'est son sacrifice à la croix, sa flagellation, son humiliation. À quoi est-ce que ça servait tout ça? Parce que l'agneau était juste immolé, brûlé sur l'autel. Puis je me suis dit, Seigneur, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu n'as pas juste... C'était pas juste donné sur la croix. Pourquoi? Parce que Jésus a dit lui-même qu'il s'est donné. Quand ils sont venus le chercher dans le jardin de Gethsemane, et même avant, et même il a dit à plusieurs reprises, il a dit, personne ne prend ma vie, c'est moi qui la donne. Alors, toutes les souffrances et les douleurs que Jésus a traversées avant la croix, c'est lui qui s'est injecté là-dedans. C'est lui qui s'est placé dedans. C'est le Dieu Tout-Puissant. Il a choisi de vivre ces choses-là. Pourquoi est-ce que Dieu a vécu ça? La Bible nous le dit. Dieu sait que dans le cœur de l'homme, il y a un profond besoin d'être compris. Plus que d'être écouté, plus que de se sentir aimé, d'être compris. D'avoir quelqu'un qui comprend qu'est-ce que tu vis. Dieu sait que dans le cœur de chacun de ses enfants, il y a un profond besoin d'avoir quelqu'un à qui t'identifier. Comprenez-vous? Moi, juste comme ça, je vous dis ceci. Au travail ici, au bureau, toute une équipe pastorale extraordinaire et des hommes qui sont en forme physique, vraiment. Ils sont vraiment tous en forme physique. Mais il y en a qui sont un peu plus en forme physique. Puis moi, je prends un goût de plus en plus à faire du sport. Quand je crois en Salvateur, je m'identifie un peu plus à lui. Parce que c'est un véloman, puis moi, j'essaie de trottiner un peu. Et puis, je réussis à m'identifier à lui. Plus qu'à d'autres, parce que je sais qu'il sait c'est quoi quand la bile monte et tu as le goût d'arrêter. Quand les jambes te brûlent et tu penses qu'ils vont tomber à terre en morceaux. Je sais qu'il sait, mais si je vais voir peut-être quelqu'un d'autre, je ne suis pas sûr qu'il sait. Là. Mais je sais que Sal, il sait. Jésus sait qu'à l'intérieur, dans le fond de votre cœur, il y a un profond besoin d'avoir quelqu'un qui vous comprend. Quelqu'un à qui vous pouvez vous identifier. Et la Bible nous dit dans Hébreux, une étude sur le livre Hébreux, ce soir extraordinaire. Regardez avec moi Hébreux, le deuxième chapitre. Hébreux 2, 18. « Car du fait qu'il a souffert lui-même, quand il fut tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Allez au chapitre 4, au verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté, comme nous, à tout égard, sans commettre de péché. J'aimerais vous dire ce soir, il existe un sanctuaire de la présence de Dieu, un lieu saint invisible, mais plus véritable que le lieu dans lequel vous vous tenez ce soir. Et Jésus, à travers sa vie, a fait une porte. La porte a la forme de Jésus. Il faut que tu te places en lui si tu veux entrer. Mais non seulement ça. Avez-vous remarqué ce soir, monsieur et Mme Vallée qui étaient portiers ici? C'est extraordinaire le ministère qu'il fait. À chaque fois que je viens les mercredis soirs, un sourire extraordinaire. Vous devez avoir mal aux joues après une demi-heure, sourire comme ça. Dans eux, ils sont juste une illustration. Dans le sanctuaire de la présence de Jésus, c'est Jésus qui vous accueille. C'est lui le portier dans son sanctuaire. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il compatit. Puis lui, il peut même tendre la main en dehors du sanctuaire. Il dit, je sais que tu te sens indigne, je sais que tu vis des pressions, je sais que tu vis des moments difficiles. Viens quand même. Moi, je te comprends. Savez-vous à quel point il vous comprend ce soir? Il n'avait pas à subir toutes ces douleurs à la croix, mais il les a subies parce qu'il voulait nous comprendre. Il comprend les pressions de la vie qui nous pressent parfois d'avoir des responsabilités parce que lui-même a été pressé à Gethsémané. Il comprend qu'est-ce que c'est de se faire trahir. Peut-être que vous avez été trahi ce soir par un être chéri parce que lui, il a été trahi par quelqu'un qu'il chérissait. Il sait comment on se sent quand un proche ne peut pas comprendre qu'est-ce qu'on vit. Parce que ses trois amis les plus proches de lui n'ont pas pu comprendre qu'est-ce qu'il vivait. Il sait comment on se sent. Il s'est déjà senti comme ça. Il sait c'est quoi vivre l'abandon de nos meilleurs amis dans les moments de tempête dans nos vies. Parce que lui, il l'a vécu. Il a vu son proche, son ami Pierre, avoir honte de lui. Peut-être est-ce des gens qui vous ont déçus, qui ont même eu honte de vous. Le Seigneur Jésus vous comprend ce soir. Il vous ouvre l'accès à son sanctuaire pour que vous puissiez venir vous confier en lui. Il comprend les injustices parce que lui-même a subi un faux procès. Les autorités l'ont accusé injustement et on l'a même accusé de manque de respect. Même un endroit où Jésus fait juste répondre au grand sacrificateur puis il y a un garde qui vient le frapper. Puis qui dit, on frappe Jésus en plein visage. Pow! Puis Jésus se relève puis il dit, en quoi est-ce que j'ai mal répondu? Faussement accusé. Fausse, mal interprété, mal compris dans ce qu'il disait. Peut-être que ça vous est déjà arrivé. A été violenté physiquement pour rien. A été abandonné par son père. Par son propre père, Dieu. La Bible nous dit que Dieu s'est tourné quand il a porté les péchés du monde. T'es blessé par la liberté de Pilate. Peut-être êtes-vous un parent d'adolescent ce soir et que vous avez le cœur déchiré de voir votre enfant s'éloigner de Dieu. Incroyable. Juste la pensée de voir Jésus se tenir devant Pilate. Avez-vous déjà pensé à ça? Pilate dit à Jésus, « Qu'est-ce que la vérité? » Et Jésus n'a pas le temps de répondre que la Bible lui dit. Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité? » Puis Pilate s'en va. La vérité était devant lui. Jésus dit, « Je suis la vérité. » Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui a un cri dans son cœur, mais qui ne veut pas écouter quand vous lui dites. Un adolescent à la maison, qui est rebelle. « Vous aimeriez donc? » On dirait que c'est « out of reach », hors de votre portée. Jésus lui-même sait c'est quoi d'avoir quelqu'un que tu aimes devant toi, puis tu ne peux pas l'aider parce qu'il ne veut pas. Puis là, on dit, qu'est-ce que la vérité? Et devant toi, la vérité, c'est Jésus. Puis il s'en va. Jésus n'a même pas eu le temps d'y répondre. Il sait c'est quoi quand un parent se sent comme ça. Il a connu la douleur de la maladie physique. Il y a des gens qui sont malades dans leur corps. La Bible nous dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il a voulu goûter à la maladie physique, à la douleur dans le corps qu'un homme peut vivre. Il se souvient de c'est quoi se sentir condamné et coupable. Parce que lorsqu'il a porté tous les péchés de l'humanité, Il a senti ce poids de condamnation, de culpabilité sur lui. Je crois même que Jésus peut compatir avec les gens qui ont été abusés dans leur vie. Même les gens qui ont été abusés sexuellement dans leur vie, je crois que Jésus peut compatir de manière unique avec eux. Savez-vous pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'il a été crucifié nu. Il a été mis nu, tout nu, et il a été crucifié, humilié. Surtout à l'époque, la pudeur était tellement importante. Jésus a été élevé physiquement devant tous et nu, humilié, même dans son intimité devant tout le monde. Il sait ce que c'est lorsque quelqu'un est abusé, lorsque quelqu'un a été brisé dans son intimité personnelle. Ses paroles ont été mal interprétées. Il a connu la solitude totale. Il a même connu le deuil d'un être cher, Jean-Baptiste. Jésus sait tout ce que vous vivez. Et ce soir, il se tient dans le sanctuaire de la présence de Dieu. Il est la porte et il est le portier. Il vous tend la main. Dans le sanctuaire de la présence de Dieu, vous pouvez venir ce soir. Vous avez un confident parfait, extraordinaire. Jésus lui-même sait ce que vous vivez parce qu'il l'a vécu. Et vous pouvez venir vous confier en lui ce soir. Il sait écouter. Vous pouvez lui demander ce soir parce qu'il a dit, si vous demeurez en moi, dans mon sanctuaire, dans ma présence, que mes paroles demeurent en vous, tu gardes mes promesses dans ton cœur, tu peux demander tout ce que tu veux, ça va t'être accordé. Vous êtes à la foi. Ce soir, j'aimerais juste simplement vous inviter à entrer dans le sanctuaire de la présence de Dieu. Peut-être que vous voulez rester assis à votre place, aucun problème. Le sanctuaire de la présence de Dieu, c'est spirituel. Peut-être que vous voulez aller marcher à l'arrière, pas de problème. Mais si vous voulez venir à l'avant et venir, j'aimerais ça faire un appel spécial ce soir. Souvent, on vous invite à venir prier pour des gens. Mais j'aimerais ça vous inviter. S'il y a des gens que vous avez une vie de prière, vous, même vous pensiez venir ce soir pour prier, mais que vous vivez quelque chose ce soir, que vous avez. Vous voulez dire, je suis venu à une réunion de prière parce que Christian, mais je vais te l'avouer, je vais être bien franc et très transparent. Je suis venu prier, mais moi aussi, j'ai besoin de prière. J'aimerais ça vous inviter à venir à l'avant. J'aimerais ça prier pour vous. J'aimerais ça. La Bible nous dit que parfois, il faut imposer les mains aux gens, il faut prier pour vous. John va nous conduire dans un temps de louange, d'adoration. Si vous voulez, on va juste se lever ensemble et on va transformer ce lieu dans le sanctuaire de la présence de Dieu. Et si vous avez besoin de prière ce soir, on va prier pour vous, moi, Pasteur Hubert, aussi Pasteur Luc Poirier qui est là. On va vous imposer les mains, on va prier pour vous. Si vous avez besoin, que ce soit pour la maladie physique, que ce soit pour quoi que ce soit, vous voulez avancer pour quelqu'un, vous voulez avancer pour quelqu'un qui n'est pas ici ce soir, vous aimeriez qu'on puisse se joindre à vous. Vous avez besoin qu'on vous impose les mains, qu'on prie pour vous. C'est biblique, la Bible a dit d'imposer les mains. Je vous encourage à venir avec une franchise, avec une humilité devant le Seigneur et dire, j'ai besoin qu'on m'impose les mains ce soir. J'ai besoin d'une touche de Dieu sur ma vie. J'aimerais que vous puissiez prier pour moi. On va prier pour vous ce soir. Hallelujah. Et ceux qui restent à l'arrière, j'aimerais juste vous inviter à juste à louer, à chanter, à adorer le Seigneur. Mais par la foi seule, nous pouvons entrer dans le sanctuaire glorieux et transcendant de la présence de Jésus. Hallelujah. Accès libre qu'il a inauguré à la croix pour nous. Hallelujah. 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 Jesus.
J'entre dans tes portes. J'entre dans tes parvis. Avec tes louanges, devant toi me voici. Reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté.